Bienvenue à Avignonnet-l'Auragais. Cette visite audio décrite commence sur la place du château, située à côté de l'aire de stationnement des camping-cars et du parking. Avignonnet a 1443 habitants et s'étend sur plus de 4000 hectares. Avignonnet occupe une place privilégiée sur l'axe naturel qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Le cœur du village est situé sur une colline à 275 mètres d'altitude. Il y a donc le centre-ville et plusieurs petits hameaux aux alentours dispersés dans la campagne. Au pied du village passent d'importantes voies de communication. Autrefois, il n'y en avait qu'une seule et unique. Une route qui reliait Narbonne à Toulouse et qui s'appelait la Via Aquitania. C'était une voie commerciale de premier plan qui passait dans la plaine lauragaise. Cette plaine n'était autrefois d'ailleurs pas sans danger. Elle était en effet recouverte d'une forêt marécageuse abritant des bandits de grand chemin. Aujourd'hui, cette forêt n'existe plus et la Via Aquitania a été remplacée par la route nationale 113. Mais il y a aussi d'autres voies de communication construites au fil des siècles, comme le chemin de fer ou encore le canal du Midi. Plus récemment, il y a l'autoroute A61 reliant Toulouse à la Méditerranée. Les débuts d'Avignonnet. Des indices retrouvés dans les alentours, silex brut et silex taillé, hache polie, laissent supposer la présence d'hommes il y a quelques 8000 années avant Jésus-Christ. À l'époque gallo-romaine, le commerce est intense. La Via Aquitania est construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. On y transporte tout type de denrées, mais surtout du vin provenant d'Italie. Mais c'est le village voisin, Montferrand, autrefois appelé Eleusinodonum, qui était une grande ville romaine. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence d'une grande villa, mais surtout d'un péage qui était établi à cet endroit-là. Au tout début du Moyen-Âge, vers le 9e siècle, l'habitat est dispersé dans la campagne et regroupé autour de petites églises qui aujourd'hui n'existent plus. Avignonnet est citée dans les textes dès 1074. Elle dépendait à l'époque des seigneurs de Laurac, un petit village près de Castelnaudary. Les seigneurs de Laurac dépendent eux-mêmes des vicomtes de Carcassonne. Sur ce lieu même, avant l'an 1000, existait donc une tour sur le point le plus haut de la motte d'Avignonnet, où nous sommes actuellement. Elle avait deux fonctions. Première fonction, servir de refuge aux populations des campagnes en cas de trouble. Deuxième fonction, contrôler l'axe routier. Cette tour va être transformée en donjon et autour de ce donjon viendra se greffer des murailles, le tout formant un château fort dont il reste des vestiges encore aujourd'hui. Ce château s'entoure d'épaisses murailles qui le protègent. La ville commence à se développer au pied du château, près de cette grande voie de commerce. Avignonnet contrôlait ainsi le trafic et était un lieu où se tenaient les foires et les marchés importants. Les chariots ne pouvaient éviter Avignonnet puisque des marécages recouvraient la plaine. Les premiers seigneurs de la ville sont donc les Laurac qui s'éteignirent à la fin du XIIe siècle. Avec la disparition des seigneurs de Laurac, Avignonnet avait besoin de nouveaux seigneurs. L'Inquisition ordonnait au comte de Toulouse de confisquer à son profit tous les biens de la famille de Laurac. Dès lors, Avignonnet sera dirigé par le comte de Toulouse, plus précisément son bail, son représentant. Un ou des chevaliers assureront la protection militaire d'Avignonnet. Les habitants prenaient une part active dans la vie administrative, puisque 6 consuls furent nommés, issus de la population locale. Dirigez-vous maintenant vers la place de l'église Notre-Dame des Miracles. Il y avait, avant la construction de cette église, un édifice roman qui s'appelait Notre-Dame des Anges. Le début de la construction de cette église date de 1320. Puis, un coup d'arrêt fut porté en 1355 car une épidémie de peste noire éclata à Avignonnet et le prince de Woodstock, alias le prince noir, fit des dégâts dans la région. L'église est bâtie non pas en briques comme les autres constructions de la région toulousaine, mais en grès calcaire très friable. Il est donc facile à tailler juste après l'extraction, puis se solidifie par la suite. On appelle aussi ce grès une mollasse. Entrez maintenant dans l'église. Du 1er novembre au 30 avril, l'église est ouverte de 9h30 à 17h30. Du 1er mai au 31 août, l'église est ouverte de 9h30 à 19h. L'édifice est composé d'une nef, d'un chœur et de six chapelles latérales. La chapelle en face de l'entrée est la plus importante. Elle est dédiée à Notre-Dame des Miracles. Il est maintenant temps d'évoquer la thématique principale à Avignonnet-Lauragais, à savoir le catharisme. Le début du catharisme en Lauragais est à situer aux alentours de 1160. Jusqu'au début du XIIIe siècle, le catharisme se développe sans violence et sans heurts. Les cathares vivent en effet en bonne intelligence avec la population locale et le clergé catholique. Les foyers les plus actifs du catharisme se situe entre Avignonnet et Carcassonne. Une estimation moyenne très approximative donne environ 50% de la population acquise au catharisme dans le Lauragais. Le pape ne pouvait donc plus rester sans réaction. Il décide d'employer des moyens violents et c'est le début de la croisade contre les Albigeois, les Albigeois étant aussi l'autre nom donné aux cathares. Cette croisade est lancée en 1209 et se termine en 1230. Mais cette croisade ne parvient pas à éradiquer l'hérésie cathare. C'est pour cette raison que le pape met en place en 1233 des tribunaux d'inquisition. Le pape va s'appuyer sur des ordres religieux tels les dominicains et les franciscains. La procédure du tribunal d'inquisition est très expéditive. Le tribunal annonce son arrivée dans la ville et interpelle sur dénonciation. Les inquisiteurs pratiquaient la torture pour obtenir des aveux. À la fin du mois de mai 1242, les inquisiteurs tiennent tribunal à Avignonnet. La ville est un bailliage de Raymond d'Alfaro, viguier du comte de Toulouse Raymond VII, fervent soutien des cathares contre les velléités des princes du Nord. Le tribunal d'inquisition itinérant venait de Sorèze. Les inquisiteurs et leur cortège arrivèrent le 23 mai 1242. Le prieur d'Avignonnet alla les accueillir. Un silence de plomb tomba sur Avignonnet quand les habitants virent passer ces silhouettes sombres de ce cortège religieux monté sur des chevaux. Tous savaient qu'il suffisait de deux témoignages seulement pour se retrouver au bout d'une corde ou dans le feu. Le prieur d'Avignonnet les conduisit jusqu'au donjon du château. Le logement commun à tous se situera dans la salle du donjon du château. La composition du tribunal. Il y avait 10 personnes. Le frère Guillaume Arnaud, juge principal dominicain du couvent de Toulouse. Le frère Étienne de Saint-Tibéri, le deuxième juge principal, franciscain, qui avait été nommé pour calmer les ardeurs de Guillaume Arnaud. Il y avait également un notaire, un messager huissier et surtout le prieur d'Avignonnet. Ce prieur avait la fonction d'indicateur, c'est lui qui dénonçait les gens à Avignonnet. Les comploteurs maintenant. Il y avait Raymond d'Alfaro, bail du comte de Toulouse, et les chevaliers fédits, c'est-à-dire dépossédés, qui avaient trouvé refuge à Montségur en Ariège. Au total, entre 30 et 40 personnes faisaient partie de ce convoi. Le départ de ce convoi des comploteurs était le 26 mai 1242. Ils arrivèrent le 28 mai 1242 à Avignonnet. Le complot est préparé par Raymond d'Alfaro. On veille à ne pas se faire repérer en arrivant. À la nuit tombante, la troupe se regroupe non loin des fortifications de la ville. Les deux chevaliers d'Avignonnet sortent pour accueillir les comploteurs. 12 sergents sont choisis pour porter les haches qui serviront au massacre. L'écuyer de Raymond d'Alfaro est pris dans le coup. Il sert les inquisiteurs à table. Il fait donc passer le message quand ces derniers sont couchés. 30 Avignonnétains sont complices du massacre. Ils aident à surveiller, ils montrent le chemin. Ils sont partants pour prêter main forte. Dans le silence de la nuit, la troupe passe la porte lombarde. Ils arrivent au pied du château. Le bail, Raymond d'Alfaro, fait ouvrir la porte. Immédiatement, les conjurés s'engouffrent dans l'enceinte. Ils doivent monter un long escalier pour atteindre l'entrée du donjon. Ils cassent la porte à coups de hache. Les inquisiteurs sursautent. Le grand rideau derrière lequel ils dorment tombe, déchiré. Les 12 haches s'abattent sur eux. C'est un carnage. Deux inquisiteurs s'échappent, mais ils sont poursuivis et tombent dans le vide. Les conjurés pratiquent sur les cadavres des gestes symboliques. On perce la langue des inquisiteurs, cette langue qui a envoyé tant d'hérétiques au bûcher. Puis chacun vole ce qui lui tombe sous la main. Raymond d'Alfaro constate avec joie la mort des inquisiteurs. Le butin primordial est bien sûr les registres de l'inquisition. Certains les détruisent, d'autres les gardent pour les revendre. Les corps sont transportés jusqu'à l'église, qui, selon la tradition, restera fermée 40 ans après le massacre. Puis les dépouilles sont acheminées vers les couvents franciscains ou dominicains à Toulouse. On a toujours voulu faire canoniser les victimes du massacre, mais cela n'a jamais abouti. Ils ont simplement été béatifiés. Après le complot, le comte de Toulouse manifeste de bonnes intentions et fera pendre deux membres de l'expédition d'Avignonnet. Le comte arrive donc à jouer sur les deux tableaux, ce qui lui évite les pires sanctions. De même pour son gendre, Raymond d'Alfaro, qui ne sera pas puni pour sa participation au massacre. Mais la décision est prise de punir ces chevaliers fédits de Montségur. 10 000 hommes viennent à l'assaut de la forteresse, qui tombera 9 mois plus tard, en février 1244. Que deviennent ceux qui sont impliqués dans cet attentat? Il y en a qui s'exilent en Italie, et certains reviendront quelques années plus tard. Il y en a qui se cachent et on perd leurs traces. Il y en a qui se cachent, mais qui se firent prendre. Certains se convertissent forcés au catholicisme et subissent des sentences diverses, comme par exemple l'exécution d'un pèlerinage. En représailles de ce massacre, le pape fit fermer l'église durant 40 ans. Et lorsqu'enfin l'église fut réouverte au culte, les cloches se seraient mises à sonner toutes seules et les portes de l'église se seraient ouvertes toutes seules également, alors qu'elles étaient solidement fermées par des liens de fer. Dès que le pape leva l'interdit, on trouva également une statue de la Vierge sur les marches de l'église, peu de temps après la réhabilitation de l'église, d'où l'appellation aujourd'hui Notre-Dame des Miracles. Depuis, il est organisé tous les premiers mardis de juin un pèlerinage. Levez-vous et allez admirer au fond de l'église un tableau de Dessac datant de 1703, représentant le massacre des inquisiteurs. Il est accroché dans la dernière chapelle de l'église. Une fois que vous avez admiré le tableau, vous pouvez ressortir de l'édifice, passer derrière le chevet dans la rue de la Potence même. Nous longeons la première ceinture de remparts. Les remparts n'existent plus, ils ont été démantelés au cours des siècles et leurs pierres réutilisées dans les constructions. Les carrières de pierres ayant servi à construire le village se trouvent sur la colline d'en face. Avancez jusqu'au prochain banc, de là nous pouvons très bien appréhender la position défensive d'Avignonnet qui est sur un promontoire. On domine la nationale 113 qui suit l'ancien tracé de la Via Aquitania. Cette voie a aussi servi pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen-Âge. Nous sommes dans le quartier d'Anguinaud. Il y avait une tour de guet ici. Au-delà de ce quartier, un peu plus bas, c'est toute la partie du village qui a été construite pendant l'âge d'or du pastel, au début du XIIIe siècle. La ville s'est étalée au-delà de ses premiers remparts. Mais malheureusement, vers 1350, les habitants connaissent une suite de malheurs. les épidémies de peste, puis la chevauchée du prince noir ravageant tout sur son passage, mettent un terme à cette prospérité. Descendez la rue et tournez dans la grande rue, à droite. Vous arrivez jusqu'à la halle. La halle. La halle date du XIXe siècle. Les premiers écrits concernant les foires et les marchés d'Avignonnet remontent cependant au XIIe siècle. Au Moyen Âge, sont transportées des laines, des tissus et surtout des draps, qui pouvaient venir de très loin, d'Angleterre par exemple. Il y avait également des gros ustensiles de cuisine, comme des chaudrons, mais aussi du vin et de l'huile. Les commerçants payaient une taxe qu'on appelait la leude, qui permettait au village de s'enrichir. Au XIIIe et XIVe siècle se tiennent à Avignonnet des marchés et des foires les plus importants de la région. Le village est en concurrence avec Castelnaudary, mais dès le XVIe siècle, Villefranche de Lauragais supplanta Avignonnet. Il y avait ici quatre foires annuelles, dont une le 18 octobre. Les marchés avaient lieu tous les samedis au XIIIe siècle. Ils ne se tenaient pas ici exactement où nous sommes, mais plutôt au Foirail, une place aujourd'hui appelée la place du Pilori, vers la mairie. Vous allez continuer à marcher dans la grande rue. Nous retrouverons beaucoup d'hôtels particuliers. Ces hôtels particuliers sont en fait de grandes bâtisses et y ont été construites à partir du XVIe siècle pendant l'âge d'or du pastel. Le pastel était une plante tinctoriale, très cultivée en Lauragais, servant à produire une teinture bleue indélébile, réservée aux plus riches. Vous pouvez marcher maintenant jusqu'à la tour en poivrière. La tour en poivrière. Cette tour faisait partie de la deuxième enceinte qui entourait le village. Elle a été remaniée à trois époques différentes. La base date du XIIIe siècle. Le milieu de la tour date du XVe siècle. Enfin, le cône fut ajouté au XVIIe siècle. Imaginez-vous, une grande construction était accolée à cette tour en poivrière. Cela faisait comme une porte fortifiée qui enjambait la grande rue et qui retombait quelques mètres plus loin. Cette porte fortifiée, qu'on appelait porte lombarde ou porte de Cerse, abritait l'hôtel de ville jusqu'en 1848, ainsi que la prison. Devant cette porte, il y avait un ravelin qui protégeait l'entrée. Un ravelin est un ouvrage avancé triangulaire destiné à la défense d'une porte de ville. Dans cette tour en poivrière fut enfermé un brigand, Michel de Polo. C'était un bandit de grand chemin qui terrorisait tous les marchands qui allaient à Toulouse, allant même parfois jusqu'à les trucider pour les détrousser. La tête de Michel de Polo fut mise à prix le 16 mars 1683. Il se serait fait prendre ici, à la porte de Cerse, pris dans un traquenard. Il fut emprisonné 3 jours dans cette prison, puis fut égorgé et décapité, afin que l'on puisse toucher la belle récompense. Sa tête fut rapportée au Capitole à Toulouse. Une fois Michel de Polo mort, le commerce reprit. Ce dernier avait considérablement diminué, car les gens avaient peur de se faire trucider lorsque de Polo était dans les parages. Cet homme était devenu le maître impitoyable des routes et des chemins. Regardez, accolé à la tour en poivrière, se trouve une statue d'un guerrier. Il représente le baron Dessazard de Montgaillard, qui vécut ici entre 1837 et 1927. Il fut même maire de la commune. De son vivant, il œuvra beaucoup afin de redonner ses lettres de noblesse à la langue occitane qui s'était peu à peu perdue avec la scolarisation massive et l'obligation de parler français dans les écoles. Le baron Dessazard fonda donc la première école occitane, l'Escola Occitana, le 6 juillet 1919. L'Escola se dota aussi d'une revue, Logé Saber, rédigée en occitan pour la partie littéraire et en français pour les articles concernant l'histoire ou encore l'archéologie. Nous venons de faire le tour de ce beau village. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez maintenant aller rendre l'audioguide à la mairie. Merci, bonne journée.